entre Jésus et le cacheur oriental. J'ai repris totalement ce qui
s'est passé. C'est lui qui le combattit au Kassanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtrise des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, merci d'être nombreux en RDC à travers le monde pour participer à l'émission qui est votre émission, Parole aux auditeurs. Près de 39% des cas de décès en RDC sont causés par le paludisme ou la malaria. Selon le Programme national de lutte contre le paludisme, le PNLP, la malaria frappe plus les enfants et les femmes enceintes. Selon les statistiques, sur 5 enfants malades emmenés à l'hôpital, 4 souffrent de la malaria. Question, comment peut-on lutter et éviter cette maladie? C'est la question principale de votre émission Parole aux auditeurs de ce mercredi 4 novembre 2009. D'après l'OMS, chaque 30 secondes, une personne dans le monde meurt du paludisme. Près d'un million de personnes par an et la moitié de ces cas se situent dans les 5 pays africains, dont la RDC. Des chiffres en fait qui interpellent. Nous en parlons avec notre invité qui est le docteur Jean Angualou. Il est coordonnateur intérimaire du programme national de lutte contre le paludisme. Bienvenue à tous et merci à vous qui venez de nous joindre.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Bonjour docteur Jean Angualou, vous êtes le coordonnateur intérimaire du programme national de lutte contre le paludisme. D'après l'OMS, chaque 30 minutes, une personne dans le monde meurt du paludisme, de la malaria. Ça fait à peu près 1 million de personnes dans le monde par an. Et la moitié de ces cas se situe dans 5 pays africains, dont la RDC. En fait, ces chiffres interpellent docteur. Docteur, vous êtes sur terrain, vous coordonnez en fait ce programme national. Quelle est l'ampleur du paludisme en RDC?
Bonjour madame, avant de répondre à votre question, je vais commencer par faire un petit rectificatif. Mm-hmm. Je suis le coordonnateur adjoint et non pas intérimaire.
Merci beaucoup.
Bien, je pense que le chiffre que vous avez avancé, effectivement, c'est cela. Et ça, c'est un peu par rapport au monde entier. Je crois que nous devons nous focaliser sur le chiffre de notre pays pour que les auditeurs de l'OCAPI puissent savoir quelle est l'ampleur du paludisme dans notre pays.
Mm-hmm. On parle de 39% des cas.
Effectivement, vous avez parlé des enfants. Mais avant d'arriver aux enfants, il y a d'abord les parents. Nous devons savoir là, que c'est toute la population congolaise qui est exposée au paludisme. Ce n'est pas seulement les femmes enceintes, ce n'est pas seulement les enfants de moins de 5 ans, mais c'est toute la population de différentes manières. Mm-hmm. 97% sont exposés de façon permanente dans notre pays et 3% seulement de façon instable. Mm-hmm. Et ça, c'est la population qui habite pratiquement dans les hauteurs de l'est du pays. Et attendre cela, c'est pour vous dire que le paludisme est un grand problème dans notre pays. Mmh. Et je crois que vous avez donné les chiffres. Et par rapport au pays entier, la quatrième direction, qui est la direction de lutte contre la maladie, nous donne chaque année des chiffres. Et pour l'année passée, par exemple, je peux vous dire que le nombre de cas rapportés par les formations sanitaires publiques se situe aux environs de 6 millions. Et environ 180 à 200 000 décès sur paludisme.
Donc, ça fait à peu près combien de pourcentage, le pourcentage des personnes qui sont malades et qui décèdent? Ça fait au total combien?
C'est pratiquement par rapport au paludisme, c'est un peu le chiffre que vous avez avancé, dans les 40% à peu près.
Donc, et quels sont les signes, en fait, pour reconnaître un malade de la malaria?
Bon, comme vous le savez, il y a le paludisme simple, il y a le paludisme grave. Mais commençons par le paludisme simple.
Des signes très simples qu'un auditeur qui se trouve peut-être dans un village reculé pour se reconnaître.
Je crois que tout le monde sait c'est que c'est la fièvre. Donc, les corps chauds. Lorsqu'on a les corps chauds, c'est déjà le premier signe d'ailleurs qu'on appelle le signe maître du paludisme. À cela s'associent les maux de tête, les céphalées et les douleurs musculaires et articulaires. et on peut arriver jusqu'au niveau des frissons, surtout pour les personnes âgées de moins de 10 ans.
Et quelle est la conduite à tenir?
Bien, c'est simple, parce que nous préconisons, étant donné que le paludisme est une maladie grave, surtout pour les petits enfants, on voudrait que le soin puisse être apporté aux enfants en ayant les 24 heures. Donc, à partir du moment que vous avez les premiers signes, la personne qui présente ces signes doit être soignée, prise en charge avant 24 heures pour éviter les complications. Ça veut dire, déjà, à la maison, il faut, si on n'a pas de médicaments, il faut vite aller au centre de santé. Et si on a les médicaments, il faut déjà commencer à donner les médicaments à l'enfant avant d'aller au centre de santé.
Oui, ce paludisme est transmis par un moustique. Et tout de suite là, nous avons en ligne Bernard qui est à Bukavu, au sud Kivu. Bernard, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Oui, Bernard, pouvez-vous nous dire comment vous vivez la malaria dans votre milieu?
Et en tout cas, c'est une maladie qui est assez viable. Ah, et ça, j'ai fait beaucoup de cas de mortalité, beaucoup de cas de mort ici dans notre milieu ici. Mais peut-être que je peux vous dire encore, Marie, que cette maladie est en train de faire rage dans notre pays en général. C'est pratiquement grâce à l'ignorance de la population, mais aussi grâce à la négligence de la population. Pourquoi je le dis? Vous savez que les anophèles femelles, ce sont des hématozoaires qui aiment pratiquement vivre dans des endroits un peu humides, donc là où il y a les autres pagnances, par exemple, c'est pas les autres pagnances, il y a aussi là où il y a beaucoup d'air. Mais vous allez constater que dans notre milieu, ici, il y a des parties-là qui sont tellement inondées par les autres pagnances, voire même par les airs. Et ces anophèles femelles aiment vivre dans de tels endroits. Et quand ça reste là-bas, ça peut pratiquement commencer à fondre, donc ça peut laisser sortir les larves, qui peuvent pratiquement être changées en nef et adulte. Donc, ces adultes sont pratiquement atteints les imagos. Et ce sont ces adultes-là qui peuvent aller commencer à piquer transgénère la maladie grave à y se contre la telle taille au monde. Donc, c'est cette petite substance-là qui aide à ces anophèles d'aller dénicher là où la cétose se cache et piquer transgénère la maladie. Donc, en somme, je vais vous dire que toute la population en général, donc la population congolaise en général, doit essayer de chercher le module, voire même le bon récit, pour essayer un peu de pousser cette maladie en essayant d'instaurer les systèmes d'hygiène et d'assainissement afin de lutter cette maladie et de diminuer les taux de mortalité.
Merci
et de
mobilité. Merci beaucoup, Bernard.
Merci beaucoup.
On sent vraiment que vous connaissez très bien la matière. Merci beaucoup, Bernard.
Parole aux auditeurs.
Nous parlons du paludisme dans cette émission Parole aux auditeurs. Nous avons Steve qui se trouve à Bandaka. Steve, vous êtes en ligne.
Oui, madame.
Oui, Steve, dites-nous un peu comment vous vivez en fait la malaria dans votre milieu.
Comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous m'aviez bien suivi. Je suis en Bandaka, j'y fais un peu mon milieu. Et si vous allez peut-être faire un petit tourisme un jour, vous allez retrouver que c'est une ville en Vaïdo. En Vaïdo, des étangs partis là. Mm-hmm. Comme vous le savez, selon les études qui nous avons décidées sur l'entomologie médicale, vous allez constater que beaucoup de moustiques, notamment les anophèles, sont ici, n'est-ce pas, des différents étangs. Donc, il y a d'abord les larves des moustiques qui se transforment à la suite vers les adultes qu'on appelle les imagos. Et ces imagos transmettent, ce sont des vecteurs véritables du paludisme. Donc,
oui,
la malaria, c'est une réalité. Réalité très grave, c'est un fléau, plus que même les sida selon moi.
Oui, en fait, Steve, est-ce que vous êtes de l'avis de Stani qui pense que en fait, c'est l'ignorance et la négligence qui sont en fait les causes de ce taux élevé de mortalité et des personnes qui sont malades de la malaria?
Dire que c'est l'ignorance, oui et non, parce que cette ignorance doit se partager, les responsabilités doivent être partagées. Il faut voir aussi de la part du gouvernement qu'est-ce qui est son apport. Est-ce que le gouvernement partage, est-ce qu'il se donne vraiment à produire nos cas des conceptions valables pour la liste du paludisme? Donc, on ne sent pas de la part du gouvernement. La population peut être un peu instruite, mais est-ce qu'il y a des mesures de sensibilisation de la part du gouvernement? Donc, nous demandons que le gouvernement prenne en charge le problème du paludisme comme il est en cours du sida. Le sida, c'est un fléau, bien sûr, mais pas plus que le paludisme. Le paludisme, c'est un danger, c'est un danger.
Oui. Steve, nous vous gardons en ligne. Nous prenons cette fois la Stani qui est à Kinshasa. Stani, vous êtes en ligne. Comment se vit en fait le paludisme chez vous, dans votre milieu?
Oui, bonjour madame.
Oui, bonjour.
Oui, à Kinshasa, le paludisme, ça fait partie de la première cause de mortalité, surtout chez les enfants. Si c'est nous qui sommes au niveau de l'hôpital, quand nous recevons les cas, vous voyez que les enfants qui vous viennent déjà très affaiblis, qui sont peut-être de passer par des petits centres, là où on n'a pas pu diagnostiquer correctement, là où on n'a pas pu soigner comme il faut, et quand ils viennent au niveau de l'hôpital ou d'une clinique, ils se présentent avec l'anémie, avec toutes les complications, et parfois l'enfant peut faire même les comas, il peut développer une néphropathie, et tout ça amène à ce que les parents soient débordés, et si on n'a pas pris, on n'a pas fait tout ce qu'on doit faire, l'enfant peut aussi perdre la vie. Donc, je l'ai parlé, c'est vraiment un problème sérieux au niveau de la vie de Kinshasa et au Congo, partout d'ailleurs.
Est-ce que vous pensez aussi, comme Bernard, qui était intervenu tout juste avant au Sud Kivu, que aussi la négligence et l'ignorance peuvent causer en fait cette augmentation de cas de paludisme?
Oui, il y a une part de négligence, puisque si l'autorité publique, si le programme national de lutte contre le paludisme, le PNLP, mène vraiment des actions concrètes sur le terrain, en train de couper toute liaison, toute transmission de cette maladie via la nofelle. Nous menons une lutte chimique ou biologique contre la nofelle. Vous verrez que dans peu de temps, la population peut rester un peu calme. Puisque si nous n'arrivons toujours pas à détruire ces foyers, à détruire cette anophèle qui est à la base de la transition d'Italie, même si on va soigner, mais on n'aura vraiment pas des effets perceptibles à toute la population.
En fait, on sent que Steve et Stani, ils ont presque les mêmes avis. Steve, qui est encore en ligne, quelle est votre conclusion par rapport à cette situation?
Ma conclusion est celle-ci. La conclusion est claire. Nous voudrions quand même sentir de la part du gouvernement une implication particulière dans cette problématique-là. Comme vous le savez, madame, les dossiers du paludisme semblent être un peu négligés en RDC. Mais quand vous voyez l'horloge sur la mortalité de cette dite maladie, alors vous allez pleurer. Si on dit même dans 30 secondes, je dirais même dans 30 secondes, il y a des millions de personnes à travers le monde. Il faudrait qu'une action particulière de la part du gouvernement soit faite pour qu'on y retrouve un pays, une certaine suite pour le sida et puis on est resté.
Merci Stani, merci Steve de votre contribution. Heureusement que dans ce studio, nous avons en fait le coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. Encore une fois, on vous renvoie la balle, on voudrait qu'il y ait plus d'action, mais qu'est-ce qui se passe sur terrain dans votre programme? Qu'est-ce que vous faites?
Merci madame, mais je pense qu'avant que je ne réponde à cette question-là, j'aimerais résumer rapidement les stratégies, parce que on a parlé de quelque part de négligence, on a parlé aussi de l'ignorance. Je crois qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que les auditeurs ont dit.
Donc, à part le gouvernement, il y a aussi une part de la population.
Absolument, parce que nous sommes tous partenaires dans la lutte, donc chacun doit faire sa part. Donc, pour le gouvernement, la première chose, c'est édicter les stratégies de lutte contre le paludisme, et ensuite mettre le moyen pour amener le programme qui est en charge de cette mission-là de faire son travail, c'est-à-dire la formation, c'est l'approvisionnement, c'est la supervision et c'est l'évaluation de l'action de la lutte contre le paludisme et la mobilisation de ressources de la part des partenaires.
Mais donc, qu'est-ce que vous faites maintenant pour l'instant? Parce qu'il a parlé d'assainissement du milieu, il a parlé de traitement au niveau de l'hôpital.
Je crois que dans tout cela, je voudrais dire qu'il faut que je résume d'abord les stratégies. Nous avons d'abord la prévention. Je suis d'accord avec le monsieur, il faut lutter contre la cause. La cause, c'est justement la nofelle, le vecteur de la nofelle femelle qui transmet la maladie.
Donc toutes les moustiques ne transmettent pas la
maladie? Non, madame, c'est juste la nofelle femelle. Bien, alors il faut lutter contre ces moustiques-là. Comment il faut le faire? Il y a plusieurs possibilités, mais la possibilité que le gouvernement utilise le plus, c'est celui qui a ce qu'on appelle un rapport coût-efficacité bon. Parce qu'il y a un coût à réaliser toutes ces informations, toutes ces stratégies-là. Et la stratégie la plus efficace et la moins chère que nous avons trouvée en accord avec l'OMS, c'est l'utilisation correcte de l'antiquaire en pénal insecticide. Mm-hmm. Et nous ajoutons à cela, effectivement, la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides. C'est très important, c'est pour lutter contre le paludisme adulte. Et il y a l'assainissement, que les gens ne puissent pas s'interrompre. Le paludisme parle de l'assainissement. Et notre assainissement, c'est par rapport à la sensibilisation de la population.
Au niveau des communautés de base.
Exactement, au niveau des parcelles, tout autour des parcelles et dans les maisons. Et tous les grands travaux-là ne sont pas des ressorts de la santé publique. C'est de notre ministère, entre autres, l'environnement. Mmh. Et nous devons travailler ensemble, comme j'ai dit, en synergie, en partenariat, pour que chaque secteur puisse apporter ce qui lui tient dans cette lutte-là, parce que la lutte contre le paludisme est aussi multisectorielle comme pour le SIDA.
Donc jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore en synergie avec le ministère de l'Environnement pour pouvoir efficacement lutter contre le paludisme?
Bon, je dirais un peu oui, parce que nous devons faire un effort, parce qu'il existe dans le pays le programme national d'assainissement. Mmh. Il faudrait que ce programme-là se mette avec nous ensemble pour qu'on voit qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble du côté à l'assainissement pour ce qui est vraiment des concrétisations, à part la sensibilité que nous faisons déjà auprès de la population.
Nous avons, merci beaucoup, nous avons continué notre émission, c'est vraiment assez intéressant. Nous avons Radjabou qui est à Beni, au nord Kivu, qui est en ligne. Bonjour Radjabou.
Oui, bonjour.
Et comment ça se passe chez vous, la situation, la problématique même du paludisme?
Ici, vraiment, le paludisme, c'est un grave, très grave, vraiment. Il y a une sorte de mort, de mortalité qui intervient à tout temps. Mmh. À tout temps.
Et qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que vous avez un témoignage? Comment ça se passe au niveau de votre famille? On peut dire sur un mois, combien de membres de votre famille est atteint plutôt et en fait infesté par le paludisme? Est-ce que vous avez des témoignages comme ça?
Par moi, vraiment, moi, je peux témoigner que dans ma famille, au moins deux membres de famille sont malades par moi, par le paludisme.
Mmh. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites?
On court très vite dans le centre de traitement.
Mmh. Est-ce que vous avez un coût? Vous estimez à combien vous vous dépensez, disons, par mois? S'il y a deux personnes qui tombent malades dans votre famille, ça vous coûte combien?
Si une personne tombe malade, ça ne coûte pas moins de 40 dollars.
40 dollars, donc disons, ça fait deux personnes, 80 dollars par mois pour être soigné du paludisme.
Oui.
En tout cas, merci beaucoup Radjabou. Nous prenons directement le docteur qui est à Kinshasa, un médecin qui veut se joindre à nous. Et docteur, dites-nous un peu comment est-ce que vous faites ici sur place concernant le coût du paludisme ici à Kinshasa, docteur Richard en fait.
Bonjour. Madame, bonjour aussi, docteur Angalo, mon frère.
Bonjour.
Oui, je voudrais venir en appui par rapport à tout ce que docteur Angalo a dit pour éclairer un peu l'opinion. Parce que les gens croient que la lutte contre la malaria est un problème seulement du ministère de la Santé publique. Je prends un petit exemple. Dans nos rencontres, on n'associe pas, par exemple, ceux qui s'occupent de la territoriale.
Mm-hmm.
C'est-à-dire quoi? Le bourgmestre, les chefs de quartier, les chefs de rue. Il faut que ces gens soient associés.
Mmh.
Ok? Ça fait. Deuxième chose, les menuisiers, par exemple. Parce que mon confrère a parlé de la moustiquaire. Mais jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez dans la rue, ils sont exposés par des menuisiers. Il n'y a aucun dispositif pour fixer la moustiquaire en plein. Ça, c'est deux. Troisième chose, je me rappelle d'une fois dans laquelle. Au cours de laquelle, plutôt, on avait exposé le village dit Achoumane. Ça signifie quoi? Les maisons construites dans des normes qui peuvent, disons, les normes avec des formes géographiques, et non, les formes avec des angles, etc. Et ces maisons-là sont capables de recevoir les moustiquaires. Et quand nous regardons les maisons à l'intérieur, c'est ça qui constitue 90% des maisons, ce sont des huttes qui sont très petites par rapport à d'autres moustiquaires. Alors la question qui ira par là pour les moustiquaires, c'est à faire entrer dans les huttes ou bien pour couvrir les huttes. Donc on doit aider le programme national de lutte contre le paludisme, je salue le courage du docteur Angalo, pour arriver à faire face à cette maladie. Avant d'arriver à calculer les coûts, etc., c'est exorbitant, parce que si on fait dans une famille 4 épisodes par an, donc si la famille est de 10 personnes, vous voyez peut-être que ça peut faire.
Oui,
mais alors, multiplié par le prix que les gens connaissent,
oui,
c'est beaucoup d'argent.
Oui,
et sans
oui,
compter l'absentéisme au travail, l'absentéisme à l'école, etc.
Donc on sent en fait qu'il y a vraiment des conséquences sur le plan économique et sur le plan social.
Oui, ce sont des conséquences énormes.
Oui, mais docteur, en fait, qu'est-ce que en fait, le programme national, parce que vous dites que vous êtes en train d'appuyer ce que fait, ce que dit le docteur Angolo,
oui,
qui est notre invité, mais à votre niveau, en tant que médecin, quand même, vous êtes une personne assez respectable dans la société, qu'est-ce que vous faites pour aider
mais
en fait
les personnes? Je vous dis ce que je fais aussi. Parce que dans la rue, par exemple, les chefs de quartier ne comprennent pas les chefs de rue. Ils disent, oh, ça, c'est tout votre problème. Et pourtant, il y a des côtés, le comité de développement communautaire dans les quartiers. Ils font rien. Ils dorment. Ils attendent des subventions.
Merci beaucoup.
Des subventions pour ramasser les boîtes vides, etc.
Merci beaucoup, okay, docteur.
Oui.
Richard, pour votre contribution.
Par exemple, à l'émission maintenant. C'est une contribution. Je fais aussi plusieurs émissions, par exemple, à la RTLC. Allez voir l'émission La Tribune des femmes. J'interviens plus avec mon argent.
En tout cas, merci beaucoup, docteur
voilà,
Richard,
merci
à Kinshasa, pour tout le travail que vous êtes en train de faire, mais il faut encore continuer parce que le paludisme, c'est une réalité.
Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez. Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Vous qui venez de nous prendre en cours, nous vous rappelons que notre émission Parole aux auditeurs, c'est l'émission que vous êtes en train de suivre et le thème d'aujourd'hui traite le paludisme. Donc près de 39% des cas de décès en République démocratique du Congo sont causés par la malaria et c'est le programme national de lutte contre le paludisme. La malaria frappe plus les enfants et les femmes enceintes. Selon les statistiques, sur 5 enfants malades amenés à l'hôpital, 4 souffrent de la malaria. Et notre question, c'est de savoir comment lutter et éviter cette maladie, d'autant plus que d'après l'OMS, chaque 30 secondes, une personne dans le monde meurt de paludisme et près d'un million de personnes par an, et la moitié de ces cas se situe dans les pays africains, et les 5 pays africains qui sont reconnus, il y a la RDC. Donc ces chiffres-là nous interpellent et nous ont poussé à pouvoir parler du paludisme aujourd'hui. Docteur Jean Angualou, vous êtes en fait le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Nous étions en train de parler du coût, le coût pour traiter le paludisme avec tous les impacts sur l'économie et tout l'impact sur la société, bientôt dans le social. Est-ce que le programme pense uniformiser le coût de paludisme sur toute la RDC?
Bien, merci pour votre question, madame. Je crois que il faut d'abord savoir que ce n'est pas du ressort du paludisme à uniformiser les coûts. Ça, c'est un. J'avais dit que le programme a aussi la mission de construire les partenariats avec tous les autres partenaires de lutte contre le paludisme, de mobiliser les fonds et d'aider les partenaires et les acteurs de lutte contre le paludisme de faire de manière à ce que la population puisse avoir l'accès financier et géographique aux interventions de lutte contre le paludisme. Donc nous faisons un effort. C'est ainsi que, par exemple, avec le financement des fonds mondiaux, nous aidons la population à avoir accès à ces actions-là parce que les interventions des fonds mondiaux sont gratuites. Il n'y a pas que le fonds mondial. Il y a aussi, je crois, que l'Union européenne a un programme avec le gouvernement pour racheter les soins des pays à la place de la population, de manière que la population puisse avoir accès gratuitement. Tous ces sont des efforts avec nos partenaires que nous faisons pour pouvoir vraiment, tant bien que mal, d'apporter l'assistance par rapport au paludisme. Mais nous devons savoir que la famille, le ménage doit participer aux soins, parce qu'on ne doit pas attendre la gratuité éternellement. Donc, quelque part, nous devons faire un effort pour ne plus débourser un rien pour pouvoir bénéficier de cette gratuité aussi.
Nous avons Christian de Kalanga qui est en ligne. Bonjour Christian.
Oui, bonjour madame journaliste.
Oui, dites-nous un peu, Christian Akananga, comment est-ce que vous vivez le paludisme?
Pour accorder la parole, merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Je salue d'abord l'invité du jour. Ici à Kananga, le paludisme est beaucoup fréquent. Tout dans les centres de santé, dans les polycliniques où je me rends. S'il y a par exemple 20 malades, c'est 16 qui sont atteints de paludisme. Et les 4 malades, d'autres maladies. Mm-hmm. Tel est mon cas, je vous assure. Moi, c'est Chambacibende qui vous parle, je dors sous une moustiquaire imprégnée. Mais il y a toujours des périodes où je réussis toujours du paludisme. Et à chaque mois, j'en préviens avec les antipaludéens, entre autres, les cifadoxines, puis les méthamines. Mais le paludisme résiste toujours. De ma part, il y a de cela des gens, j'en souffre toujours. Et j'aimerais demander à l'invité du jour. Je vois ici à Kananga, il y a un organisme de la santé appelé PNLP, Programme National de Lutte Contre le Paludisme. Quel est le rôle et la fonction de cet organisme au sein de la population?
Oui, merci beaucoup Christian. Il y a aussi Gabriel qui est à Kinshasa. Comment ça se passe? Est-ce que vous aussi vous utilisez la moustiquaire, mais malgré cela, vous faites toujours des rechutes de malaria?
Allô?
Oui, allô Gabriel. Bonjour Gabriel.
Bonjour, merci à toute l'équipe de Radio-Canada. Merci à Dr Jean Angualuki, votre invité. Je suis en ce jour à Kinshasa, mais je réside à Isiro. Mm-hmm. Je vous donnerai peut-être les réalités d'Isiro. Je sais que la prise en charge de la malaria à Isiro coûte énormément cher quand quelqu'un est dans un stade où ça nécessite une observation d'hospitalisation. Mais je voudrais retourner votre invité pour dire qu'il faut des plaidoyers poussants, parce que je sais que le président de la République, ce qu'il a fait pour la lutte contre le VIH-SIDA, il ne donne pas des moyens de le faire pour la malaria. Bon, je demanderai peut-être à toute l'équipe qui s'occupe de la coordination de la lutte contre le paludisme de faire le plaidoyer comme le collègue de TNMNS ou de CIELS pour faire de sorte que la malaria, qui a des statistiques effrayantes des morts chaque année, chaque mois, vous pourrez être, je sais pas, considéré comme une épidémie, quoi, ou une pandémie qui serait de sorte que les Global Fund, au lieu par exemple de supporter d'autres actions humanitaires, les surplus par exemple, en dehors de ce que fait la lutte contre le sida, qu'on déverserait dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Voilà ma modeste contribution.
En fait, Gabriel, est-ce que vous aussi vous êtes de l'avis de Christian, parce qu'il a posé aussi un problème, il dit que lui, il utilise la moustiquaire imprégnée. Est-ce que vous connaissez aussi des cas, des personnes qui utilisent également la moustiquaire imprégnée, mais qui font souvent des rechutes de paludisme?
Bon, je crois peut-être, même n'étant pas du domaine de la médecine, je crois à notre ami Christian de Kanango de Mujimai, qu'il était peut-être de refaire près de sa goutte épaisse. Peut-être que la thérapeutique qu'il est en train de suivre n'a pas été une thérapeutique de choc pour éradiquer totalement la malaria dont il a souffert.
Donc vous avez une expérience
d'être moustiquaire imprégné n'est pas synonyme d'être totalement à l'abri de moustiques. Il est au salon. Au salon, il n'a pas de moustiquaire. Il est peut-être au jardin. Là, il n'a pas de moustiquaire. Donc, c'est mieux d'abord qu'il puisse essayer de faire un examen complet de sang frais, des cultures de sang, pour voir peut-être que les traitements qu'il a eu, peut-être le principe actif dans les médicaments qu'il avait eu, n'a pas suffi totalement à éradiquer la maladie dans son organisme. Alors là, on a des rechutes à répétition. Mm-hmm. Parce que je sais que peut-être il y a de nos collègues, de nos amis qui utilisent la moustiquaire imprégnée. Parce qu'il y a des notices. Vous la prenez le même jour, vous l'enlevez dans l'enveloppe, le sachet, et vous la mettez d'abord exposée peut-être pendant une journée, et mm-hmm. pour l'étaler le lendemain. Mais d'autres, ils les font directement. Là, il y a des céphalées et d'autres effets. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Merci beaucoup, Gabriel. Docteur Jean Angualou. Donc, il y a eu deux auditeurs. Il y a d'abord Christian qui se plaint. Effectivement, il utilise un moustiquaire imprégné, mais il refait de temps en temps des rechutes. Et puis, nous avons eu notre auditeur de Kinshasa qui carrément a dit qu'il y avait quand même des notices. Il ne suffit pas seulement d'utiliser la moustiquaire imprégnée, mais il y a aussi d'autres choses qu'il faudrait respecter. Vous êtes médecin, par rapport à la moustiquaire imprégnée et les problèmes qui ont été posés, qu'est-ce que vous répondez à cela?
Ok, merci bien. Je pense que mon ami Dissero, qui est en vacances à Kinshasa, m'a déjà aidé à répondre à monsieur de Kananga.
De Kananga.
Bien, je crois que la première chose qu'il faut savoir, notre ami de Dissero l'a dit, comment est-ce que vous utilisez votre moustiquaire, notre auditeur de Kananga? Quand est-ce que vous allez au lit? La moustiquaire protège lorsqu'on est sous moustiquaire. Alors, à quel moment vous allez au lit? Ça, c'est la première chose. Quand vous restez toute la nuit, jusqu'à 2h du matin avant d'aller dormir, donc vous avez donné le temps, vous êtes exposé assez longtemps, de façon à donner la possibilité à la nouvelle semaine de vous piquer.
Mmh.
Ça, c'est un. Deuxième chose, j'ai suivi que vous utilisez pour vous soigner la SP, la cisplatine trimethamine. C'est justement une molécule qui n'a plus d'efficacité dans notre pays. Cette molécule est réservée actuellement pour...
Et quel est le nom sur le marché?
C'est le Fensida. On ne veut pas faire de publicité.
Oui, voilà,
tout le monde connaît la sulfadoxine trimethamine. Donc, c'est sous le berbère, c'est Fensida. Donc, c'est le nom courant.
Mm-hmm.
Donc, actuellement, on ne soigne plus le paludisme chez nous avec le Fensida.
Mm-hmm.
On le soigne avec des combinaisons à base d'arsenésinine. Entre autres, par exemple, la combinaison arsenate-amodiaquine, la combinaison arsenate-lumefantrine et autres. Donc, la première chose, il doit d'abord changer son traitement. Il ne doit pas se soigner seul. Mm-hmm. Comme a dit notre éditeur, il doit aller faire sa goutte épaisse ou les tests thérapeutiques, savoir si la goutte épaisse est positive et de prendre le médicament qu'il faut. Et au moment qu'il faut, et avec la dose qu'il faut.
Est-ce qu'on peut aussi prévenir, parce que au lieu d'avoir souvent des rechutes, est-ce qu'on ne peut pas essayer de stabiliser en fait sa malaria?
C'est ça que j'ai dit, madame. Il y a la prévention. Bien utiliser la moustiquaire. Bien utiliser la moustiquaire. Lutter contre les moustiques adultes dans la maison avec l'insecticide.
Et son environnement.
Et son environnement, c'est-à-dire exactement enlever tout ce qui peut constituer la collection d'eau dans laquelle se produisent les anophèles. Et il faut éviter les grands herbes, comme on dit par exemple en Bendaka, parce que c'est l'endroit où ils viennent se cacher, les adultes, il faut que la nuit ils viennent dans la maison. Donc, tout ça sont des mesures d'assainissement qu'il faut accompagner à l'utilisation correcte des moustiquaires. Et à la prise en charge correcte et précoce lorsqu'il y a fièvre infectieuse.
Oui, Christian de Kananga aussi a posé une question. Que fait le programme national de lutte contre le paludisme?
Okay.
Il dit en fait qu'il ne comprend pas ce qui se passe concrètement sur le terrain.
Bien, ce n'est pas un organisme. C'est au fait le point focal, le point provincial de le programme national de lutte contre le paludisme. Donc au niveau de chaque province, nous avons le correspondant provincial qui effectivement aide la population à... Et il fait le programme de niveau national, c'est-à-dire édicter les stratégies, suivre ce qui se passe sur le terrain, créer les partenariats, mobiliser les ressources et essayer d'encadrer les zones de santé qui mettent en œuvre les stratégies. Donc, il a le même rôle que nous. Alors, si Kananga a des problèmes, qu'il me dise peut-être que voilà, il y a ça, mais en tout cas, ce qu'il est là, c'est vraiment le prolongement du PNLP central.
Donc, vous allez continuer à faire vos recherches et savoir comment ça se passe. Nous allons continuer notre émission.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Nono qui est au Bandundu, à Bandunduville. Il est infirmier. Bonjour, Nono.
Et bonjour, madame.
Nono, nous allons revenir sur le coût, en fait, parce que vous êtes infirmier. Hein. Combien ça coûte quand vous recevez un malade? Vous le taxez combien?
Bon, non, ça dépend aussi de la présence du malade. Ce n'est pas seulement le paludisme. Il ne peut pas être isolé du paludisme seulement. Il peut s'y avoir associé d'autres maladies. Alors, le coût ne peut pas être... estimé seulement au paludisme, madame.
Mais concrètement, quand quelqu'un se présente, il y a tous les signes, maux de tête, tous les signes qu'a donné en fait le docteur Jean Angualou, qui est notre invité ici. Quand il présente tous ces signes, combien il doit payer? Il doit débourser combien à Bandunduville?
Bon, quand il présente les signes, il faut catégoriser le paludisme. Si c'est le paludisme simple, il nous est recommandé à donner le traitement combiné, l'artésinat plus la modiacine. Là, une plaquette revient à 850 au centre de santé. Ça, c'est pour les adultes. Pour les enfants, c'est à 550 francs. Alors, s'il s'agit du paludisme grave, où on va intervenir à une perfusion quinine, là, ça peut lui coûter plus la perfusion au-delà de 3 000 ou 5 000.
Mm-hmm.
Mais en tout cas, ça ne dépasse pas 10 000.
Ça ne dépasse pas 10 000. Et maintenant, et vous recevez plusieurs cas, en fait, des malades atteints du paludisme. Sur tous les malades que vous avez, vous recevez par exemple 10 malades au cours d'une journée. Combien souffrent de paludisme?
Normalement, madame, c'est comme dans tous les pays, et notre pays bien sûr, nous recevons au moins plus de 10 malades qui souffrent du paludisme.
Mmh.
Ça, c'est la moyenne.
Merci beaucoup, Nono, pour ces réalités que vous avez vu en train de vivre à Ndundouville. Nous avons maintenant docteur Dichako, qui est Dissiro. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Docteur, dites-nous un peu chez vous comment ça se passe à Issiro.
Bon, eh bien, ici à Issiro, je suis en transit, mais en transit, moi, je reste à Poco, à 133 km d'ici.
Mm-hmm. Et le paludisme de ce côté-là, comment ils le vivent? Comment la population vive avec le paludisme?
Oui, c'est vraiment la pathologie la plus courante. Qui tue beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans dans ma française.
Mmh. Et qu'est-ce qui se fait sur place? Quelles sont les actions que vous menez?
Et nous sommes une zone de santé qui est en fait appuyée par un organisme ici, qui est en connivence, si vous voulez, avec le Fonds mondial, donc dans le cadre du programme. Pour nous sondre, nous soignons le paludisme avec la nouvelle stratégie. Donc, disons, le paludisme avec la nouvelle stratégie, la combinaison artisanat en amodéquine. Et pour le paludisme, c'est la stratégie avec la quinine.
Oui, alors, docteur, comment réagit la population dès que, parce que quand même, vous vivez, vous rencontrez vos malades, souvent dans les zones de santé, les médecins sont proches, en fait, de leurs patients. Est-ce que la population, instinctivement, automatiquement va voir le médecin ou bien a tendance à aller voir la médecine aussi traditionnelle? Parce qu'on peut dire qu'il y a aussi cette alternative-là.
Bon, nous sommes dans un milieu rural, comme vous le savez bien. Il y a toujours cet attachement-là aux us et coutumes qui fait que parfois ils se rendent main. Ils commencent quand même à comprendre et à avoir cette habitude-là de fréquenter les structures sanitaires étatiques où il y a des programmes qui peuvent aider à combattre cette maladie.
Merci beaucoup, docteur, pour nous avoir donné ces informations sur la réalité du paludisme à Issiro, en province orientale. Docteur Jean Angualou, est-ce que la médecine traditionnelle peut-elle guérir le paludisme?
Bien, je pense d'abord que, comme a dit le confrère, dans notre pays, je crois qu'il y a une grande partie de la population croit à la médecine traditionnelle.
Les Kongabouloulou.
Exactement. Bien, mais il faut savoir aussi, même au niveau du gouvernement maintenant, il y a tout un programme national de médecine traditionnelle, parce que effectivement il y a des plantes qui ont fait leurs preuves. Je vous donne rapidement, je ne fais pas la publicité, mais c'est la réalité des choses. Nous avons ici dans notre pays un pharmacien qui a mis sur pied un médicament antipaludique à base de plantes.
Mmh.
Et ça, c'est reconnu par le gouvernement. C'est un progrès. Et la quinine, c'est un médicament qui est issu des plantes. Et la nouvelle combinaison, l'artésinate, ça vient des plantes. Ça veut dire que, dans l'avenir, l'espoir, c'est sur les produits des extraits des plantes. Parce que nous avons vu plusieurs extraits
sans pesticides. Mais la chimie, c'est d'abord une chose.
Exactement, la quantité. Voilà, exactement. Donc, l'espoir pour le paludisme, ça va venir des plantes et non pas de la chimie.
Donc
c'est question maintenant de réglementer la médecine traditionnelle et qu'il puisse se traduire, accepte la méthode moderne pour mettre à ce que le programme national du paludisme et les gouvernements puissent autoriser officiellement l'utilisation de leurs médicaments pour lutter contre le paludisme.
Mais sur le plan, en fait, sur le coup, nous allons d'abord joindre François. François qui est à Kikwit au Bandundu. Bonjour François.
Bonjour, mon cher journaliste.
C'est Marie-Chantal Lumba.
Marie-Chantal, ça va.
Oui, merci beaucoup. En fait, François, on voudrait savoir, chez vous à Kikwit, est-ce que les malades du paludisme, ils font recours plus facilement à la médecine traditionnelle ou à la médecine moderne? Et dans les deux cas, lesquels coûtent le moins cher, si on peut dire ça comme ça?
Dans les médecines traditionnelles, c'est impossible. Là, je ne sais pas, mais ce que moi je sais, le médecin qui est en place, mais pas le médecin traditionnel.
Donc, la plupart des gens que vous connaissez se rendent directement dans un hôpital ou un centre de santé.
Oui, ils se rendent directement à l'hôpital ou dans le centre de santé.
Oui, et vous connaissez plusieurs personnes qui sont atteintes du paludisme ou bien quand même il y a des fréquences assez variées chez vous?
Écoute, il y a plus ou moins 90% de cas de paludisme.
Merci beaucoup, François.
Bon, je voulais participer un peu.
Oui, on vous écoute, François.
Bon. Le problème, ici, docteur Charles, c'est bien, mais la meilleure façon de lutter contre le paludisme, c'est seulement par le moustiquaire imprégné. Parce que le moustique, pendant la journée, le moustique vole aussi. Bon, pour lutter bien sur ce fléau, il fallait que les deux ministères soient ensemble, le ministère de Santé et le ministère
de l'environnement.
Les deux ministères peuvent lutter pour le succès chez lui. À partir de là, le moustiquaire ou le malaria peut disparaître. On ne peut pas attendre le moustiquaire imprégné, parce que même le moustiquaire imprégné, on vend ça très cher. Mais quand vous passez dans les mêmes boutiques, vous voyez le même emballage que le ministère de Santé donne dans les personnes, quelques personnes qui donnent ça.
Mais en attendant, en fait, l'action du gouvernement, qu'est-ce que vous faites dans votre milieu?
Tu sais que nous, les Congolais, notre mentalité est vraiment un peu différente des autres pays. Il fallait l'État qui est notre chef, qui c'est.
Donc vous attendez un mot d'ordre et entre-temps vous faites piquer par les moustiques. Donc mais qu'est-ce que vous comptez en fait entreprendre même au sein de votre quartier, de votre avenue?
Moi je peux arranger mon avenue, mon quartier, ma maison, ma parcelle, mais mon voisin.
Donc vous allez aussi, disons, le mettre dans le rythme, quoi. C'est quelque chose comme ça. Parce que ce n'est pas seulement la maison, mais il faut aussi les voisins, ainsi de suite, les voisins, venus, quartier. Est-ce que vous pouvez vous investir, peut-être comptez vous investir dans ce sens-là, au lieu d'attendre le gouvernement?
On ne peut pas attendre le gouvernement, mais la mentalité, c'est ça que je suis en train de dire, que notre mentalité, c'est une phase de, quand moi je travaille ou j'arrange mon parcelles, mon voisin n'est pas la même idée que moi.
En tout cas, merci beaucoup François pour votre contribution.
Radio Okapi assure votre réveil. De lundi à vendredi à partir de 5h du matin, elle vous offre sa matinale. Avec 8 rendez-vous d'informations dans 4 langues nationales, des infos sur l'état de la circulation routière, les prévisions météorologiques, les rappels de rendez-vous importants, des news politiques, sociales, français et économiques du pays, le tout en 4 heures. Faites le plein d'énergie au rythme de l'info, avec la matinale de Radio Okapi, de lundi à vendredi, de 5 à 9 heures, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, c'est Parole aux auditeurs avec le thème aujourd'hui, c'est sur le paludisme avec 39% des cas, donc toutes ces personnes qui meurent chaque seconde, chaque 30 secondes, selon l'OMS, il y a une personne qui meurt et le paludisme est vraiment ancré dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir sur notre plateau, si on peut dire comme ça, le docteur Jean Angualou, qui est le coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. En fait, docteur, nous pouvons vous dire qu'il y a la 5e conférence qui est en train de se tenir, la 5e conférence panafricaine sur le paludisme à Nairobi. Et c'est une initiative en fait qui vise à renforcer les capacités de recherche et de contrôler la maladie en Afrique. Alors docteur, c'est vrai que la RDC, je pense qu'elle est représentée là-bas, et qu'est-ce que vous comptez apporter de plus pour que notre pays puisse bénéficier de certaines choses par rapport à cette conférence panafricaine?
Merci madame, je dois commencer par vous dire que on a toujours dit que la politique de la chaise vide ne paye pas. C'est un peu pour répondre à cela que cette fois-ci, par rapport à ce qui s'est passé il y a 3-4 ans au Cameroun, à Yaoundé, la délégation congolaise à Nairobi est composée de force de 15 personnes. Et parmi ces 15 personnes, il y a à peu près 9 chercheurs qui vont présenter les recherches faites au Congo sur le paludisme.
Mm-hmm.
C'est ainsi que nous comptons nous faire voir à l'extérieur. Et comme vous avez très bien dit, ce sont des études internationales, il y a des bailleurs qui arrivent, il y a des chercheurs internationaux qui arrivent. C'est l'occasion de prendre contact pour tisser des partenariats en vue de développer davantage les recherches sur le paludisme en RDC et surtout de diffuser les résultats des recherches qui sont ici.
Donc,
parce que les recherches, il ne faut pas seulement les garder les résultats, il faut diffuser les résultats à travers le monde pour que les gens sachent que voilà, il y a telle chose qui se passe à tel endroit par rapport à ce qu'il y a fait ailleurs. Qu'est-ce que le Congo a trouvé? Est-ce qu'il y a des nouveaux? Il n'y a pas de nouveaux. Mmh. Et il y a échange et nous pouvons aussi profiter de ce qui se passe ailleurs que nous ne connaissons pas et qui peut nous aider à changer notre stratégie chez nous.
C'est vrai que la RDC est assez vaste. Il y a plusieurs provinces. Est-ce qu'il y a des millions, en fait, des provinces qui sont plus... où il y a plus de paludisme que dans d'autres? Est-ce que ces recherches-là sont déjà arrivées à ce niveau-là? Est-ce que, aussi, on voudrait aussi savoir, est-ce qu'il y a déjà une molécule que les chercheurs congolais vont proposer là-bas, parce que le paludisme, c'est pas toujours le même partout. Il paraît qu'il y a des paludismes un peu plus forts et d'autres qui sont un peu plus atténuants, si on peut dire ça comme ça. Mais par rapport à tout ça, en RDC, la cartographie du paludisme.
Oui, je crois qu'avant de commencer l'émission, je vous ai dit que la population congolaise est à 100% exposée, mais de deux manières. Il y a 97% qui est exposé de façon permanente, c'est-à-dire où le paludisme est fort et pendant toute l'année, et 3% où le paludisme est instable pendant quelques mois de l'année. C'est déjà une grande différence.
Et les provinces, en fait, qui sont...
Bon, les provinces, les plus effectives, c'est presque toute la République, sauf la partie haute de l'est du pays, les montagnes du pays, là où il y a élevé et la température est assez fraîche, assez basse, où l'océan ne peut pas vivre. Mais tout le reste du pays, c'est pratiquement indemne. C'est le paludisme stable à force d'endémicité.
Donc, là, dans ces côtés-là, quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces personnes-là qui sont vraiment très, 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 très exposées à ce paludisme?
Bien. En un mot, des gestes simples. C'est d'abord commencer par faire l'assainissement intra- et péridomiciliaire. Donc, éviter tout ce qui peut collecter l'eau de pluie pour exposer au soleil et permettre à ce que la nocelle soit produite. Et ensuite, éviter les grandes herbes tout autour des maisons parce que les moustiques adultes viennent se poser là-bas pour trouver refuge et venir attaquer. Et ensuite, utiliser simplement la moustiquaire de façon correcte. C'est-à-dire déjà 20h, 20h30, il faut être sous moustiquaire. Et si vous ne pouvez pas être à cette heure-là au lit, utilisez les insecticides pour tuer les moustiques dans la maison.
Et concernant
les moyens simples qu'on peut utiliser.
Oui, concernant cette molécule, est-ce qu'il y a déjà une proportion de molécules en rapport avec la malaria qui se vit sur le RDC?
Oui, je vous ai dit ici que nous avons, pour le paludisme simple,
Les
chercheurs, non. Oui. Comme je ne suis pas là, madame, je ne peux pas dire maintenant, je crois qu'il faut attendre ceux qui sont allés là-bas. Mm-hmm. Ils vont nous amener les nouvelles, quelles sont les choses que les chercheurs congolais ont amenées là-bas. Donc,
Parole aux auditeurs.
Nous avons en ligne Tanzalima de Beni, au Nord Kivu. Bonjour Tanzalima.
Oui, bonjour, Papy.
Oui, et quelle est votre contribution par rapport à cette émission sur le paludisme?
Moi, je voudrais revenir sur le facteur qui contribue la malaria, cette maladie qui frappe en plein fouet l'Afrique et les Congolais en particulier.
Mm-hmm.
Donc, les facteurs sont notamment les suivants. Les guerres qui créent l'exposition aux moustiques, et les guerres qui causent la malnutrition aussi qui favorise alors l'entrée des microbes là. Mais bon, après les guerres, nous avons l'automédication. L'automédication, avant même l'automédication, il y a la pauvreté, parce que les guerres créent la pauvreté, et avec la pauvreté, bon, on ne sait à quel sens se vouer, on se livre à l'automédication. À part cela, nous avons, par l'automédication, nous avons la sous-qualification et le charlatanisme. Moi, je suis à Béni. Et moi, à Béni, on peut parler de médecins. Mais entrer dans les grandes forêts, les sujets là de d'Afouachène, par exemple, vous allez trouver sur plusieurs kilomètres carrés, on peut ne pas rencontrer un seul médecin. Sur kilomètres carrés, on peut même ne pas rencontrer un seul infirmier de niveau A2. Alors, vous comprenez que ceux qui traitent les gens là-bas, ceux qui s'occupent de cette maladie-là, d'autres maladies, ne sont pas bien indiqués pour traiter la maladie. À part cela, il y a également l'hygiène, l'assainissement, les coutumes locales. Au lieu d'aller chez le médecin, au lieu d'aller à l'hôpital ou dans un centre spécialisé, les gens préfèrent se livrer à aux sorciers ou alors aux sorciers, oui, les féticheurs, même dans des églises pour aller traiter la maladie. Eh bien, nous devons savoir que la maladie se soigne et se traite.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kanzalima, pour toutes ces informations que vous nous avez données. Nous prenons directement Moïse, qui est à Kinshasa. Dites-nous, Moïse, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment lutter et éviter la malaria? Allô? Oui, Moïse, on a perdu Moïse. Nous prenons Mami, qui est à Kananga, au Kasai occidental. Bonjour Mami.
Bonjour Marie Chantal.
Oui, Mami, nous vous demandons aussi de pouvoir vous éloigner de votre radio parce qu'on sent un retour. Est-ce que vous pouvez vous éloigner? Et dites-nous en fait, Mami, qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir éviter et lutter contre la malaria?
Ok, je voulais intervenir surtout par rapport à ce que le tout premier auditeur a dit. Je sais que la malaria sévit même ici aussi à Kananga. C'est vraiment une réalité. Et nous sommes d'une date du jour de malades du paludisme.
Mm-hmm.
Et parce que nous sommes victimes. Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas prévenir cette maladie au lieu d'attendre que l'État vienne?
Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre cette maladie?
La première chose à faire, c'est l'utilisation correcte de la moustiquaire imprégnée et l'assainissement du milieu. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut attendre que l'État vienne dans la maison de tout un chacun de nous pour placer la moustiquaire ou nous apprendre à assainir le milieu. Ce qui est mieux à faire, c'est chacun à son niveau peut faire. Bien sûr, l'État va intervenir, peut intervenir à sa manière, parce qu'il y a déjà ce programme-là de lutte contre le paludisme au niveau national et même au niveau de toutes les provinces. Je pense qu'il est nécessaire et important que chacun de nous prenne soin de lutter contre cette maladie. Nous sommes partenaires de l'État et je pense que nous pouvons l'aider dans ce sens-là. En utilisant bien la moustiquaire imprégnée, en assainissant bien son milieu de vie et aussi à la pulvérisation de l'insecticide dans nos maisons.
Mm-hmm.
Là, on peut bien lutter contre le paludisme et je pense que dans ce sens-là, la prévalence du paludisme peut diminuer.
Merci beaucoup, Mamie, pour toutes ces propositions et aussi on sent que vous êtes vraiment active dans votre milieu et que nous espérons que d'ici, on pourra éradiquer en fait cette maladie. Docteur, dites-nous, il y a plusieurs auditeurs qui ont donné plusieurs... ils ont montré en fait qu'il y a la malnutrition qui favorise le paludisme, il y a l'automédication et ainsi de suite. Mais docteur, quand même, vous avez dit que vous avez plusieurs partenaires. Est-ce que depuis que les partenaires interviennent en fait dans la lutte contre le paludisme, est-ce qu'il y a un changement?
Bien, il faut d'abord savoir qui est-ce que nous appelons partenaire. Je crois que la dernière auditrice, Mamie, l'a très bien dit que nous, la population, nous sommes aussi partenaires de l'État. Mmh. Et je félicite madame, c'est ça. Qu'on n'attende pas partenaire toujours les institutions extérieures. Partenaire, c'est toute personne concernée et qui voudrait faire quelque chose pour lutter contre le paludisme.
Mmh.
Donc, si je comprends par rapport à vous, les partenaires, nous avons le gouvernement, nous avons les agences des Nations Unies, nous avons les coopérations multi et bilatérales. Nous avons la communauté. On ne doit pas oublier que la communauté est un grand partenaire, la communauté. Et nous tous aussi, nous faisons partie de cette communauté. Étant à la fois les bénéficiaires de la lutte, de mesures de lutte, nous sommes aussi partenaires parce que nous devons effectivement utiliser les stratégies qui sont mises à notre disposition. Comme a dit Madame Mani.
Oui,
par rapport à le dernier auditeur de Benila,
oui,
effectivement, la pauvreté y est pour quelque chose. Et je crois que le programme des fonds mondiaux, c'est justement un des programmes pour lutter contre la pauvreté, parce que par rapport à cela, les intrants amenés par les fonds mondiaux sont donnés gratuitement pour que ceux qui devaient quitter la famille pour lutter contre le paludisme puissent être utilisés à faire autre chose.
Donc
effectivement,
il y a une amélioration sur le terrain à partir de ces
absolument, de ces parce que nous avons 515 zones de santé et tous les partenaires extérieurs qui nous aident interviennent seulement dans 259 zones de santé. Donc, tout le reste, il n'y a pas d'appui.
Donc, vous allez continuer à faire des plaidoyers. Il y a, par exemple, José Ngamboli, qui dit, en fait, que c'est un vrai fléau. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes payent le plus lourd tribut. Et malheureusement, le pouvoir public consacre moins de 3% de son budget. Donc, quel est votre dernier mot, en fait, parce que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission.
Je crois que notre dernier mot est de savoir un peu. Nous avons les stratégies efficaces pour lutter contre le paludisme. Pour mettre en œuvre ces stratégies, on a besoin de fonds. Et il faudrait que chaque partenaire puisse faire sa part pour arriver à amener cet effort. Et une des recommandations, c'est celui que le président africain avait pris à Abuja pour que le budget de la santé de chaque pays soit d'au moins 15%. Et avec ça, on pourra faire quelque chose.
En tout cas, merci beaucoup, docteur Jean Ngualou, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes en fait le coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. Merci également à vous, les auditeurs, qui avez participé à cette émission et aussi à ceux qui n'ont pas pu être contactés faute de temps, notamment Eric Adaré Salam, Ramazan Yakalemi, Fiston Abeni. Et au nom de toute l'équipe de Parole aux auditeurs, nous vous remercions, sans oublier que demain, notre thème de demain, ce sera le début des travaux anti-érosistes à la cité Mamamboutou à Kinshasa, les travaux dont le coût est de 4 millions de dollars. La question, connaissez-vous des problèmes d'érosion dans vos milieux respectifs et comment peut-on lutter contre ce fléau? Réagissez bien sûr dès à présent par SMS au 09 98 99 222 et par internet à pa@radiotapi.net.